Oui, vous asseoir et prendre vos Bibles dans Hébreux au chapitre 3 ce matin. Oui, merci. Les petites martinettes qui s'occupent des petits tessiers. Les deux petits bonhommes. Hébreux au chapitre 12. Au chapitre 3, verset 12. Le livre d'Hébreux. Alors, on parle ce matin pour le dernier message. C'est avec un peu un pincement de cœur. Je ne sais pas si je suis le seul qui a un pincement de cœur, mais terminer la série sur « Voici ton Dieu ». Pour moi, ça a été une aventure. Pour moi, ça a été tellement une bénédiction. Je le partageais jeudi soir lors de notre repas de la veille de Noël. Puis vraiment, découvrir Dieu, vous savez... Dieu est infini. L'éternité au complet ne pourra pas épuiser ce qu'on peut comprendre de Dieu. On va rester tout le temps émerveillé. On va tout le temps être « wow ». C'est un peu dur à comprendre pour nous, là, parce que des fois, on voit quelque chose de nouveau. Mettons, aux Olympiques, quelqu'un fait un exploit, on dit « wow ». Mais après ça, c'est fini. Là, un autre le fait, puis on dit « ah, ok, ben c'est bien ». Tu sais, l'émerveillement est limité. Mais avec un Dieu infini, comme le Dieu de la Bible, ça va être un émerveillement infini. Et ça sera pas plate au ciel. Je sais pas c'est qui a fait ce dessin-là de petit ange de même, puis il n'a même pas qu'une cigarette, là. C'est un pécheur, c'est pas un saint qui a fait ça. C'est pas biblique. Ça va être au ciel, ça va être, on dit, la félicité éternelle, ça va être une joie, une paix, quelque chose, on peut même pas comprendre. Et mes amis, je pense que c'est bientôt. Amen? Ah oui! Il y en a un qui croit ça aussi. Bon, on ne sait pas c'est quand, là, mais... Je veux juste dire que moi, je pense que c'est bientôt. Ah, mais on va juste lire un verset, on va en lire plusieurs pendant le message. Mais regardez, l'avertissement du verset 12. « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Seigneur, on te remercie qu'on a ta parole entre les mains ce matin et que tu parles à ton peuple encore. Et Seigneur, on te remercie pour ça. Tu n'es pas un Dieu impersonnel, tu n'es pas un Dieu distant, un Dieu qui ne se soucie pas de ton peuple, de tes enfants. Au contraire, Seigneur, tu es près de ceux qui t'invoquent, tu te révèles à ceux qui te cherchent. Et Seigneur, ce matin, on vient de le dire, tu es un Dieu tellement grand et infini, on va être émerveillé de toi toute l'éternité. Ce matin, on veut découvrir encore plus ta grandeur, ta bonté, Seigneur, révèle-toi à nos cœurs. Par le Saint-Esprit, Seigneur, ta parole vivante, qu'elle puisse vraiment faire ton œuvre, comme juste elle peut le faire par le Saint-Esprit dans chacune des vies représentées ici. Seigneur, on s'en remet à toi, afin que tu fasses au milieu de nous, à travers nous, et bien au-delà, Seigneur, ton œuvre glorieuse, rédemptrice et merveilleuse. On te prie toutes ces choses, au nom de Jésus. Amen. On est dans Hébreux parce que ce matin, on va considérer Hébreux et 1 Pierre avec ce thème du Dieu vivant. On aurait pu prendre l'Apocalypse parce que Hébreux et Pierre sont les deux et troisième livres du Nouveau Testament où est-ce qu'il y a le plus de références au Dieu vivant. Et la première référence, c'est l'Apocalypse. Et vous allez comprendre pourquoi. L'Apocalypse... Je veux dire, c'est la révélation de Jésus-Christ. Puis plusieurs fois, ça dit, j'étais mort, je vis et je viens. Puis ça parle des êtres vivants, puis tout ça. Ça parle beaucoup du fait que Dieu est vivant, puis qu'il revient dans l'Apocalypse. Mais Seigneur m'a dirigé dans les livres de Hébreux et 1 Pierre pour ce matin. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de spécialement d'actualité pour nous autres. Oui, c'est... Deux livres regorgent de références au Dieu vivant. Et c'est dans un contexte, les deux, similaires. Autant pour les Hébreux que pour ceux à qui Pierre écrivait, ils étaient dans un contexte de souffrance, de persécution. Et c'est les deux, des petits groupes de croyants. C'était pas des grandes églises, là. C'était des petits groupes de croyants qui étaient mis au bas de la société, qui portaient l'opprobre de Christ dans une société hostile à tout ce qui est chrétien. C'est pas nouveau, hein, ce qu'on vit.
Non.
Et c'est eux autres qui étaient dans ces situations-là, le 2000 ans. Mais par contre, il y a une différence fondamentale. Dans le livre d'Hébreu, l'accent est mis sur le Dieu vivant lui-même. C'est lui qui est mis de l'avant. On a beaucoup de références dans le livre d'Hébreu au Dieu vivant. Vous allez voir, on va passer à travers les références ce matin dans le message. Tandis que le livre de Pierre, de 1 Pierre, réfère à tout ce qui est vivant en rapport avec Dieu. Par exemple, ça nous parle d'une espérance vivante à l'ouverture du livre. OK? Chapitre 1, verset 3. Ça continue dans le verset 23 du même chapitre à nous parler de la parole vivante. Ensuite, dans le chapitre 2, ça nous parle de Jésus-Christ qui est vivant et la pierre angulaire de l'édifice dont nous sommes des pierres vivantes. OK? Et dans chapitre 3, verset 18, ça dit que Jésus a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Et ce même esprit, Hébreu nous dit que c'est lui qui l'a ressuscité des morts. Chapitre 9, verset 14. Et ces références dans 1 Pierre, on peut dire, parlent du Dieu vivant, mais de façon plus indirecte. Dans le sens où est-ce que on parle de ce qui est l'objet de la vie de Dieu. L'espérance, elle est vivante parce que Dieu est vivant. La parole, elle est vivante parce que c'est la parole du Dieu vivant. OK? C'est des choses qui sont rendues vivantes parce que Dieu est vivant. OK? Et Jésus-Christ, dans ce sens-là, est l'ultime objet de la vie de Dieu, ou le vase, le récipient, le vecteur de la vie de Dieu. Autrement dit, Hébreu met beaucoup l'accent sur le Dieu vivant comme étant la source de toute vie. Tandis que 1 Pierre, pour sa part, nous parle du fait que Dieu, ce même Dieu, communique cette vie. Et ultimement, cette vie, elle est communiquée par son Fils Jésus-Christ. C'est par lui qu'on a la vie. Et là, tout ça sort de purement l'académique, parce que bon, ce que je vous dis, c'est un peu théorique. Là où ça rentre dans notre quotidien, dans la pratique, c'est lorsqu'on comprend que c'est comme ça que Dieu a voulu se révéler à ce peuple seul, délaissé, découragé, apeuré. C'est ça que Dieu voulait leur faire comprendre. Je suis vivant. Je suis celui qui vous donne une espérance vivante. Je suis celui dont la parole est vivante. Et donc, c'est ce que les récipiendaires de ces deux lettres merveilleuses du Nouveau Testament ont reçu comme message. C'est la révélation, c'est ce que Dieu voulait leur montrer sur lui-même, qu'il est ce Dieu vivant. Et donc, c'est ce que j'aimerais qu'on considère ce matin. Deux faits fondamentaux à croire. Deux faits fondamentaux à croire sur la communion avec le Dieu vivant. Le titre de mon message, je ne sais pas si je l'avais donné, mais c'est la communion avec le Dieu vivant. On peut être en communion avec ce Dieu. Ces gens-là qui étaient dans la souffrance, dans les difficultés, qui étaient, oui, délaissés, seuls, n'étaient pas seuls. Avaient le Dieu vivant qui était avec eux, puis ils pouvaient être en communion avec lui. Au sein de ces difficultés, ils pouvaient avoir une joie, une paix ineffable, parce que le Dieu vivant était avec eux. Comme il est encore avec nous, d'ailleurs. Amen?
Amen.
Dieu est avec nous autres. Maintenant, le livre d'Hébreu, on vient de lire le chapitre 3, verset 12, et c'est la première référence qu'on considère, mais on va en considérer, en fait, toutes les références au Dieu vivant dans Hébreu. Et ce que j'aimerais qu'on voit, c'est que ce Dieu vivant est la source de toute communion qu'on peut avoir avec Dieu. Et ici, je l'ai dit tantôt, c'est un avertissement. Ça dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. L'avertissement ici, c'est l'avertissement du Dieu vivant, notre salut. Le contexte ici indique clairement, quand on regarde dans Hébreu, que l'auteur s'adresse à ceux qui font partie du peuple de Dieu. Il dit « frère », il s'adresse au peuple de Dieu, mais il dit « il y a des gens parmi vous qui professent Christ, mais qui n'ont pas la réalité de Christ dans leur vie. » Et c'est un peu comme s'il fait retentir l'avertissement que Paul donne dans 2 Corinthiens 13, 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Il les avertit pour qu'ils s'assurent d'être effectivement dans la foi qui sauve. Comme Jacques dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? » Une foi vivante, une foi réelle, la foi qui sauve. Et donc, ce premier sous-point, je l'adresse à ceux qui sont ici souvent, et peut-être même depuis longtemps, mais dont la réalité de la foi salvatrice n'est pas évidente. Et l'avertissement, c'est prenez garde qu'avec un cœur mauvais et incrédule, de se détourner du Dieu vivant. Dieu est vivant et Dieu sauve encore.
Amen.
Il n'est jamais trop tard pour venir à Dieu. Et la bonne nouvelle, si vous êtes ici et vous n'avez pas encore la foi, vous n'êtes pas encore personnellement confié en Jésus comme votre sauveur personnel, c'est que ce n'est pas une situation irrémédiable. C'est que aujourd'hui, parce que Dieu est vivant, parce qu'il est la source de toute vie, vous pouvez aller à lui pour avoir la vie.
Amen.
Parce qu'il est vivant et il donne la vie à ceux qui viennent à lui humblement pour avoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, ça m'amène à la deuxième référence dans le livre d'Hébreu, au chapitre 7, verset 8. Chapitre 7 et le verset 8. La première référence nous parlait de l'avertissement du Dieu vivant, notre salut. On va lire le verset 8, vous allez voir maintenant la bénédiction du Dieu vivant, notre supérieur. Regardez verset 8. Hébreux 7, 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ce passage-là, ça serait un peu trop long. Mais ici, ce qui est communiqué, c'est que Melchizedek était supérieur à Abraham. Hey, puis si vous parlez un hébreu d'Abraham, vous dites, wow, hey, c'est le père de notre nation, notre père dans la foi. Puis, hein, même les pharisiens ont dit à Jésus hein, qu'ils ont Abraham pour père. C'était une fierté nationale. Mais ici, il parle de quelqu'un qui est supérieur. Et c'est lui qui a reçu la bénédiction par Abraham. Et je veux amener un point ici par rapport à Éphésiens chapitre 1, verset 3. Ça nous dit « Béni soit Dieu, le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Le Dieu vivant est la source de toute bénédiction. De toute bénédiction spirituelle, oui, matérielle, mais surtout spirituelle, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que Dieu, écoutez bien, a décidé de toutes nous les donner. Dans un endroit, dans une personne, il les déverse sur nous par et en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Et ici, Jésus-Christ est préfiguré par Melchizedek. Même certains vont dire, ah, c'est peut-être même Jésus-Christ, c'est peut-être l'ange de l'Éternel, puis tout ça. Je ne vais pas rentrer, comme j'ai dit, dans les détails, ça serait long. Mais l'idée, c'est qu'on voit que c'est le supérieur, et Jésus est notre supérieur, duquel coulent toutes les bénédictions. Et maintenant, il y a une grande sécurité là-dedans. Puis c'est le point que je vais développer le plus ce matin. Il y a une sécurité, il y a un repos, il y a une paix dans le fait de se placer sous celui qui est notre supérieur. Et la semaine passée, vous rappelez-vous de l'illustration avec les lunettes qui inversaient? C'est contre-intuitif, rappelez-vous? C'est contre-intuitif à notre nature humaine de se placer sous l'autorité de quelqu'un. Parce que notre nature est rebelle. Puis dans notre nature, on ne veut pas. Il y a quelque chose en nous qui repousse cela. OK? Mais mes amis, c'est complètement insensé de faire ça avec celui qui est la source de toute bénédiction qui peut s'imaginer. Ne pas se placer sous lui, c'est l'ultime folie humaine. C'est-à-dire celui qui... De qui émane toutes les bénédictions. Il y a même un cantique. Je pense pas qu'on l'a en français. Praise God from whom all blessings flow. On l'a dit en français?
Oui.
OK. Tu sais, Dieu, c'est de lui que toutes les bénédictions coulent. Donc arrêtons d'être insensés en se prenant pour Dieu lorsqu'on recherche la bénédiction au lieu de se placer sous celui qui est la source de bénédiction. C'est tellement une tendance humaine forte. Oh, on veut être béni. Ah, amène-en des bénédictions. Mais est-ce qu'on veut se placer sous celui qui est la source de toute bénédiction?
Amen.
Et mes amis, je pense qu'ici, il y a quelque chose, j'ai dit, c'est le point que je veux développer le plus. C'est quelque chose que vous retenez du message, je veux que ça soit ce qui suit. Il y a une façon unique par laquelle le Dieu vivant est sanctifié au milieu de son peuple, au milieu de nos vies, lorsque on se place sous son autorité, qu'on se place sous son contrôle. Et Dieu prend ça très au sérieux. Cette semaine, le Seigneur va vraiment parler avec Deutéronome 32-51. Tu connais par cœur, Nathan, peux-tu nous citer, s'il vous plaît? Deutéronome 32-51. Non, c'est pas nécessairement... quand je vais vous en parler, vous allez tous connaître la référence, mais on se dit, ah, ben ouais. Je l'avais pas vu, mais vous allez savoir à quoi ça réfère. Ici, c'est Dieu qui donne le verdict à Moïse de dire « Pourquoi tu ne rentres pas dans la terre promise? » Il dit « Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Meriba, à Kadesh. » Quand il dit « vous », c'est Aaron et Moïse. « À Kadesh, dans le désert de Tsin. Et que vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des enfants d'Israël. » Le plus grand reproche que Dieu a fait à Moïse, et qui explique que lui et Aaron, qui est mort auparavant, là, que lui et Aaron ne sont pas rentrés dans la terre promise, eux, les leaders spirituels d'Israël, c'est qu'ils n'avaient pas sanctifié, mis à part, exalté, montré comment Dieu est unique et incomparable. C'est ça qui est arrivé quand ils ont frappé le rocher au lieu de lui parler. C'était pas juste un petit geste, il y avait une signification énorme avec tout ça. Ils ne l'ont pas montré comme étant le Dieu merveilleux, digne de confiance, d'adoration et de crainte. Et mes amis, voici la responsabilité numéro un d'un leader que Dieu appelle. Vous dites, ouais, c'est pour moi, effectivement. Mais c'est vrai, s'il ne le fait pas, il se disqualifie. L'appel d'un homme de Dieu, c'est à exalter, c'est sanctifier le Dieu vivant au milieu de son peuple. Amen. That's it, mes amis.
Amen.
Sinon, on se disqualifie, le ministère veut rien dire, il vaut rien, parce qu'il a perdu toute sa raison d'être. On n'est pas appelé pour se mettre de l'avant puis dire comment qu'on est beau, qu'on est bon puis qu'on est fin. Le but de l'appel, c'est d'exalter, sanctifier Dieu au milieu de nous, comment... Lui est incomparable, il est beau, il est bon, puis il est fin, il est tout, et encore plus. L'appel et l'exercice du ministère doit être centré sur Dieu, puis l'exalter. Parce que Dieu en est le but, le commencement, la fin, puis passer à côté, c'est manquer l'essentiel. C'est manquer le Dieu vivant qui est la source de toute vie. C'est manquer Dieu lui-même. Donc, comprenez-vous mieux maintenant pourquoi il est essentiel de rechercher à se placer sous celui qui est notre supérieur au lieu de rechercher la bénédiction qui vient de sa main. Parce que quand on recherche à se placer sous ce Dieu vivant, là, on le sanctifie. Quand on recherche la bénédiction, c'est nous qu'on exalte. « Ah, moi, je veux ça. Moi, je suis important. C'est ça. » Non, c'est pas ça l'idée. On veut bénir Dieu. On veut l'exalter, lui, le sanctifier, le faire paraître comme... Il est grand, incomparable. Autrement dit, faire un grand cas de Dieu. Puis pas faire de cas de l'homme. L'homme, Esaïe nous dit, il y a juste un souffle dans ses narines. Puis même, il est encore plus direct dans Jérémie, « Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni est l'homme qui se confie en l'Éternel. » Puis il donne la belle image qui est dans le psaume 1, qui se retrouve aussi dans Jérémie 17, un arbre près des courants d'eau qui porte son fruit en sa saison, les feuilles ne se flétrissent point, il ne craint pas la chaleur.
Amen, amen.
Maintenant, une autre chose que je veux dire par rapport à ce point-là, c'est que c'est là que je suis appelé à vous diriger en tant que leader spirituel, je vais rendre compte à Dieu pour ça. Est-ce que j'ai sanctifié le Dieu vivant au milieu du peuple que Dieu m'a confié sous ma charge?
Amen.
Mes amis, c'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça que ça dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Puis bien plus que ça, en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est ça la question, c'est est-ce qu'on a un Dieu qui est plus grand que ce qu'on vit? Est-ce qu'on a un Dieu qui est plus grand que... C'est ça, est-ce qu'on sanctifie Dieu ou notre Dieu, il n'est pas plus grand que la situation, notre Dieu est vaincu, puis... C'est ça la question, c'est ça qui... Pour Dieu, c'est ça qui est en jeu. Puis c'est tellement sérieux que Moïse, l'homme de Dieu qui a donné la loi à Israël, n'a même pas pu rentrer dans ta promise parce qu'il n'avait pas fait ça. Mes amis, il y a quelque chose de vraiment gros avec ça. Il y a une sécurité, il y a une confiance qu'on peut avoir dans ces temps troubles et incertains. Si notre premier souci, puis là, c'est pas juste le mien, si lorsqu'on se rassemble ensemble, si tout le monde, dans notre cœur, le désir, c'est de sanctifier ce Dieu vivant, unique, incomparable. C'est pour ça qu'on se rencontre. Ah, il y a toutes sortes d'effets collatéraux. On s'édifie, on s'exhorte, on s'encourage. Il y a toutes sortes de belles bénédictions qui viennent avec, puis on est content. Merci Seigneur qu'on peut se rassembler. Mais le but premier, c'est qu'au milieu de nous, ce Dieu soit sanctifié. Vous savez quoi, si on a ça? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ah, je vous lis ce passage-là. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça notre assurance. Si le souci premier, c'est de mettre ce Dieu-là qui nous promet ces choses-là, de quoi qu'on va s'inquiéter pour le reste? Je veux dire, c'est une promesse puissante, ça, là. On n'a rien à s'en faire. Puis comme ce n'était pas assez, continuons notre petit périple dans le livre d'Hébreux. Regardez au chapitre 7 encore, mais verset 25, verset que vous connaissez probablement très bien. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver, évidemment ça nous parle ici de Jésus-Christ, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oh, la bénédiction! C'est plus que ça, c'est qu'on a c'est l'intercession du Dieu vivant, notre souverain sacrificateur. Dieu lui-même intercède pour nous parce qu'il est notre souverain sacrificateur. Savez-vous, Jésus est l'accomplissement de l'Ancien Testament, vous savez ça, hein? Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes, il y avait des rois, puis il y avait des sacrificateurs. Jésus est notre roi, notre prophète, notre sacrificateur. Il est tout en même temps. Parfaitement. Et ça nous dit même, j'aime ce verset-là, vous connaissez Romains 5:10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Sa vie nous délivre, sa vie est notre délivrance, c'est notre... Dieu est vivant, puis lorsqu'on laisse vivre à travers nous, c'est notre délivrance, c'est de ça qu'on a besoin. Donc, non seulement l'intercession de notre souverain sacrificateur, mais continuez 9:14. On avance toujours dans Hébreux. Une autre référence au Dieu vivant. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Comme si ce n'était pas assez d'avoir un souverain sacrificateur. Ici, l'assurance encore grandit lorsqu'on voit que nous jouissons de la purification du Dieu vivant, notre sacrifice expiatoire. Il est notre justice devant Dieu parce qu'il a donné sa vie. Lui, parfait, lui sans péché, est mort à notre place, nous, les coupables. Mes amis, si on n'a pas d'assurance avec ça, on n'aura jamais. Je veux dire, On peut paraître devant le Dieu trois fois saint comme irréprochable. Alors pourquoi craindre? Pourquoi être troublé? Mais voici à quoi trembler. Une autre référence au Dieu vivant, 10:31. Toujours dans l'hébreu, là. On fait un petit voyage dans l'hébreu pour les références au Dieu vivant. Regardez 10:31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oh, la réprobation du Dieu vivant, notre souverain. Mes amis, les chrétiens, il faut qu'on abandonne la crainte de l'homme. Il faut qu'on revienne à la crainte de Dieu. L'Église de Jésus-Christ doit se repentir.
Amen, amen, amen.
Mes amis, on est dans le trouble à cause de ça, puis le monde est dans le trouble. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de voir qui est ce Dieu, puis c'est qui va leur présenter si ce n'est pas ceux qui le connaissent?
Amen.
Il n'y en a pas d'autre. C'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Évidemment, si on est sauvé, on n'a rien à craindre. Je veux dire, Christ est notre justice. Mais je veux juste amener une application importante ici. Avec la crainte de l'homme... Hey, j'ai entendu, je parlais de ça avec Donald hier. La peur puis la foi ont en commun qu'on ne les voit pas. C'est des choses qu'on ne voit pas. Ce qui nous fait peur, la plupart, on ne le voit pas. Puis on ne voit pas le Dieu en qui on croit. Mais il faut qu'on décide d'y croire pareil.
Amen.
Est-ce que je veux croire à ce qui me fait peur? Ou est-ce que je veux croire au Dieu que je ne vois pas, mais je sais qu'il est là?
Le choix est facile.
Et ce que je veux amener comme application dans ce sens-là, l'Église a besoin de se repentir de la crainte de l'homme. Et vous savez, David, un jour, était... Il a péché contre l'Éternel, c'était pas la seule fois, mais une fois, bon, c'était avec le dénombrement, vous savez, parce que les rois, à l'époque, hein, ils se glorifiaient dans les puissances qu'il y avait, mais Dieu voulait que la confiance de David soit en lui, pas dans les hommes et les chevaux, hein, c'est un proverbe à quelque part, ça dit ça, que notre confiance n'est pas dans les chevaux, ceux-là se confient dans leurs chevaux, c'est un psaume, excusez, mais nous, on se confie dans le nom de l'Éternel, c'est pour ça que c'est un péché, parce que c'était regarder à sa force, à ce que lui pouvait faire militairement, et donc Dieu... lui a révélé son péché, un prophète qui est allé le voir, puis là, il a dit, je te donne trois châtiments possibles. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a fait ce qui était sage. Il a dit, je préfère tomber dans les mains du Dieu vivant.
Amen.
Puis il a laissé Dieu choisir, puis dire, Dieu, je veux ta conséquence, ton châtiment. Savez-vous que c'est exactement ce qu'on a besoin maintenant? Savez-vous qu'on peut avoir peur de ce qui peut arriver, puis ça se peut qu'il arrive quelque chose? Moi, je m'attends sincèrement, là, ça se peut qu'on ne sait pas comment les choses vont être, mais des contraventions, moi-même la prison, là, je veux dire, je le considère comme une option. Mais voici comment, avec l'exemple de David, j'aime mieux tomber dans les mains de Dieu en y avoir fait confiance que tomber dans les mains des hommes en essayant de m'être mis à l'homme. J'aime mieux avoir l'homme à dos que Dieu à dos.
Amen.
Puis j'aime mieux aller en prison en sachant que j'ai fait et que je fais d'une bonne conscience devant Dieu ce qui lui plaît que de rester ici puis d'avoir une conscience qui m'accuse puis d'avoir, au lieu de sanctifier le Dieu vivant au milieu de son peuple,
amen,
d'avoir fait comme si Dieu n'était pas plus grand qu'un homme. Puis... Mes amis, on parle de choses sérieuses. C'est ça qu'on vit en ce moment. C'est ça l'enjeu. C'est Dieu. Mes amis, c'est pas une affaire d'homme, puis d'opinion, puis ce qu'on pense. C'est le Dieu vivant qui veut être sanctifié au milieu de nous autres. Ça m'amène à la dernière référence au Dieu vivant dans Hébreux, et c'est au chapitre 12, verset 22. 12, 22. Ouais. Et ça part du mont Sinaï versus le mont du Calvaire. Et ça dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges. » Et ici, on fait un parallèle entre la loi de Moïse avec qui a été donnée sur la montagne versus la grâce qui est sur le mont du Calvaire et comment ça nous approche du ciel lui-même. Et ça, mes amis, c'est la glorification du Dieu vivant. Notre soulagement. Je le disais tantôt, la délivrance approche.
Amen.
On peut souffrir sur cette terre, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas c'est quand qu'il va nous enlever, mais la chose est sûre, le meilleur est à venir. C'est pas le temps de se relâcher. C'est pas le temps de jeter la serviette. Et peut-être que pour certains, la situation de leur cœur, de leur vie, font qu'ils sont las et l'âme découragée, comme ça dit dans Hébreux 12:3. Mais j'aimerais qu'on regarde juste... Oups, on va reculer juste une petite affaire dans chapitre 10, versets 24 et 25. Mes amis, si ces versets-là ont une importance, je pense qu'ils en ont énormément en ce moment. En passant, il était écrit à des gens qui vivaient des choses difficiles, qui étaient isolés, qui étaient au banc de la société. Puis regardez chapitre 10, versets 24 et 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Si vous voyez s'approcher le 2000 ans, mes amis, nous autres, on l'a en plein, on l'a comme le nez d'en face, là. Il est très proche le jour. Ça peut être des années, mais c'est pas mal plus proche que 2000 ans, n'est-ce pas? Moi, je pense pas qu'il nous reste un autre 1000 ans, OK? Ça, là-dessus, je le dis avec confiance. Il nous reste pas 1000 ans. Puis je pense pas qu'il nous reste 100 ans. Puis je me demande bien s'il nous reste 10 ans. Puis voulez-vous que je continue à diminuer? Je pense vraiment que ça va être bientôt. Mais bon, je suis pas prophète, puis je vais pas prétendre l'être.
2021.
Mais juste pour vous dire, quand on regarde un passage de même, ça nous montre que l'Église est essentielle.
Amen.
Puis en passant, hier, j'ai partagé un message qui vient directement du cœur d'un pasteur, puis je pense, on pourrait l'appeler peut-être notre MacArthur canadien. Beaucoup plus jeune, là. Ben, je pense que M. MacArthur s'approche de 80. Lui, je me demande s'il s'approche de 90 même. Maman, s'il s'approche de 40. Un jeune homme qui prêche avec conviction, puis tout ça, prenez le temps de l'écouter. C'est amené dans le bon esprit, c'est pas controversé, c'est la lumière de la parole sur les choses qu'on est en train de vivre. On l'écoutait en famille hier, c'est une bénédiction, et justement, ça nous ramène les yeux là et où ils doivent l'être. Le gros du message est passé, mais je veux qu'on s'en aille dans 1 Pierre pour le deuxième point. Le deuxième fait... concernant la communion avec le Dieu vivant. Dans 1 Pierre, on voit la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est le fruit de la communion avec le Dieu vivant. Regardez chapitre 1, verset 3. J'y ai référé tantôt, on lit directement ici dans 1 Pierre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Wow! J'aime ce passage. Puis dans Hébreux, il y avait une référence au chapitre 10, où est-ce que ça dit que Jésus-Christ nous donne une entrée libre dans le sanctuaire par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. C'est-à-dire, cette espérance vivante, c'est qu'on sait qu'on va aller voir Dieu, on sait que le chemin est ouvert, on sait, encore là, c'est juste une question de temps, on est ici bas sur terre dans cette tente pour un temps. Cette tente, c'est notre corps. Mais un jour, on va être dans la présence même de Dieu. Ça, c'est la motivation de la communion avec Dieu, parce que Jésus est notre victoire. La victoire est déjà remportée. Mes amis, on ne lutte pas pour essayer de gagner. On lutte dans cette vie, puis on lutte tous avec le péché qui nous enveloppe si facilement, mais on lutte parce que la victoire est remportée. On lutte comme des gens qui ont déjà la victoire et qui restent dans cette victoire. On lutte pour juste rester dedans. Notre guerre spirituelle, c'est pas pour essayer de gagner la victoire, c'est pour garder le terrain que notre Seigneur a déjà remporté. Et d'où l'importance, il faut pas céder. Quand on cède à l'ennemi, à Satan, on lui donne du territoire que Dieu a déjà gagné. On vole à ce que Dieu a gagné. Si on laisse Satan prendre le dessus par la peur, par la colère, par toutes ces choses-là, on est en train de faire de l'œuvre de Christ, on est en train de la faire reculer. Christ a déjà, je veux dire, on peut avoir tout le courage dont on a besoin, toute la foi, tout pleinement en Jésus-Christ. Mais c'est par la foi, il faut le prendre comme étant donné de la main du Dieu vivant. Et cette espérance vivante, je pense que c'est le premier fruit, vous savez, les prémices comme dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est la prémisse de cette semaine. On offre au Seigneur la première journée de la semaine. Dans l'Ancien Testament, il y avait les prémices. Et lorsqu'on est en communion avec Dieu, on a une espérance vivante qui nous soutient. Pourquoi? Parce que c'est la vie du ressuscité lui-même qui nous donne cette motivation, cette espérance. Pourquoi? Parce qu'il y a notre victoire. Puis comme j'ai dit, pourquoi on aurait peur si déjà la victoire est remportée? Et en passant, je pense que je l'avais partagé, mais les gens comme vous qui viennent à l'Église, qui se nourrissent des paroles du Dieu vivant, on passe à travers ces temps difficiles comme personne d'autre.
Amen.
Pas parce qu'on est meilleur,
non.
Parce qu'on est en lien avec celui qui est l'ultime. Puis c'est ça que les gens ont besoin, puis c'est ça qu'on veut leur partager. C'est lui qu'on veut leur partager. Et dans des temps comme celui-ci, mes amis, c'est une façon vraiment extraordinaire de sanctifier Christ dans nos cœurs et d'être prêt comme ça à rendre témoignage de notre Dieu qui est en nous. Ça amène à la deuxième référence dans 1 Pierre, verset 23. Chapitre 1, verset 23. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et ça, ça arrive aussi dans Hébreux 4, 12. Hein, ça nous parle de la parole qui est une épée à deux tranchants. Elle est vivante. La parole de Dieu est vivante. Ça, c'est la consécration de notre communion avec Dieu par Jésus-Christ qui est notre sanctification. Jésus, quand il a prié pour nous, j'ai dit tantôt qu'il était notre souverain sacrificateur. Vous savez, quand il était sur terre, il a prié pour nous ici en ce moment. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il dit ça dans Luc 22, mais dans Jean 17, 17, il a fait, en fait, dans Jean 17 au complet, c'est la prière sacerdotale, la prière de notre grand souverain sacrificateur. Et là-dedans, au verset 17, il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Le fruit de la parole vivante dans nos vies, ça va être un peuple qui professe la vérité dans l'amour, qui proclame la vérité dans l'amour, dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales et dans la vie de notre Église ici. Et ça, c'est beau. C'est beau un peuple qui célèbre les louanges de Dieu. C'est beau un peuple qui offre un sacrifice à Dieu, c'est-à-dire des lèvres qui confessent son nom. Ça plaît à notre Dieu qu'on le fasse de façon parlée, de façon chantée, en priant.
Amen.
Ça glorifie notre Dieu. La Bible appelait ça la beauté de la sainteté. Je l'ai cherché en français, ça ne le dit pas de la même façon. Ça parle des ornements sacrés en anglais. Ça dit « the beauty of holiness ». Mais l'idée, c'est qu'il y a quelque chose de beau à un peuple comme ça qui sanctifie son Dieu, qui montre que Dieu est incomparable.
Amen, amen.
Et c'est ça qui doit être l'objet de notre attention. Comme je dis, c'est de ça qu'on doit se soucier. Est-ce que l'Éternel est sanctifié au milieu de nous autres? Est-ce qu'on fait un gros cas de notre Dieu? Ou comme diraient les Anglais, on fait-tu un big deal de notre Dieu?
Amen.
On doit. Chapitre 2, versets 4 et 5, une autre référence. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Ici, ça parle de Christ, qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, ça c'est nous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ah, ça c'est l'édification de la communion avec Dieu par Jésus-Christ, notre justice. Pensez-y. Quel appel unique, merveilleux, glorieux, qu'on a, nous, des indignes pécheurs, d'être appelés à être une partie intégrante de l'œuvre de justice parfaite de Dieu par Jésus-Christ. Pensez-y, c'est incroyable! Par l'Évangile! Pourquoi? Parce que l'Évangile, en lui, est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et ça, c'est essentiel, mes amis. Ici, là, c'est pas une secte. C'est pas une religion vaine. On est le projet de construction de Dieu. Tu sais, on peut construire une maison, on peut faire des grands projets. Il y a eu des projets hydroélectriques dans le Nord, des grands projets de construction, mais il n'y a rien qui égale l'édification du corps de Christ. L'œuvre de Dieu, son œuvre de construction, il n'y a rien qui s'égale à ça.
Amen.
Et mes amis, ça nous dit dans le verset que Jésus est la pierre angulaire. Et nous, on est des pierres vivantes. Encore, vous voyez la centralité de Dieu. Tout ça, tout ce qu'on vit, c'est pas nous le show, là. Nous, on fait juste embarquer dans ce que Dieu fait. C'est ça qui est merveilleux. C'est lui qui a la gloire.
Amen.
Et notre édification mutuelle, lorsque je vous cite Éphésiens chapitre 4, versets 15 et 16, « Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Ça, c'est l'œuvre de construction de Dieu. Et non seulement c'est essentiel, c'est pourquoi c'est la seule chose qui est essentielle sur cette terre. La seule! Au niveau du plan rédempteur de Dieu, c'est pour ça qu'on est encore sur terre. Si on est une pierre vivante, Dieu, c'est parce qu'il y en a encore qui veut rajouter, il n'a pas fini. Et le reste, c'est tout secondaire. C'est la chose la plus essentielle sur cette terre. Et c'est pas surprenant que le monde ne le reconnaisse pas. Ah, on n'est pas essentiel. Puis qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? La puissance de Dieu.
Amen.
Mais il ne faut pas se surprendre que le monde le rejette. Mais pour nous, il faut que ça soit ce que c'est, une grande source d'encouragement et d'édification mutuelle. Je veux terminer avec le chapitre 4, versets 1 à 5. 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 à 5. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est ainsi en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens, en marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas. Wow! Ça, c'est un mot français pas évident. Kevin, tu nous le diras tantôt. Il y a des mots qui sont durs à dire en anglais. Celle-là, précipitiez pas. Oh, précipitiez pas. Avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Manquez pas le point ici. Pierre veut leur montrer qu'une perspective éternelle à ce qu'ils vivent. Oui, il était dans l'injustice. Il y avait plein d'affaires qui ne marchaient pas dans ce qu'ils vivaient. Il était injustement traité. Mais ici, il leur rappelle qu'il y a un Dieu éternel qui est vivant, puis tout le monde va avoir à y faire face. Et tout genou va fléchir devant celui qui est sur le trône. C'est non négociable. Satan lui-même va fléchir le genou, parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est la perspective éternelle que Pierre veut donner à ces chrétiens méprisés par le monde. Oh, mais choisis et précieux devant Dieu. Et qui ont cette espérance vivante. Que même si le monde périt, dans toute sa méchanceté, son incrédulité, son orgueil, rien ne peut nous dérober du prix de la vocation céleste qu'on a en Jésus-Christ. Rien! Est-ce qu'on est armé de cette pensée ce matin? Est-ce que, selon les choses qu'on peut souffrir dans notre chair, on est armé de la pensée de Christ? La pensée de la victoire, de l'espérance, de l'assurance. Ou est-ce que nos pensées sont de défaite, de peur, de découragement, de désespoir? C'est où ce qui est merveilleux là-dedans? On ne combat pas avec des armes charnelles. Non seulement on peut avoir les bonnes pensées, mais les mauvaises. Christ est plus fort et toutes ces pensées peuvent être amenées sous clé, peuvent être amenées captives à l'obéissance de Christ. Donc, on se rappelle ce matin que lorsqu'on est face à Dieu, et un jour, on va tous faire face à Dieu, on va rendre compte de où est-ce que j'ai mis ma confiance. Où était ma confiance ici-bas? Parce que c'est tout ce qui compte. Et c'est de ça qu'on va rendre compte. Pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, est-ce que tu as mis ta confiance dans le sacrifice parfait, dans la provision en mon Fils Jésus-Christ? Et pour nous qui sommes sauvés, qui avons accepté cette provision dans les hauts et les bas de la vie, est-ce que tu as mis ma confiance, ta confiance dans ma grâce? Dans mon Fils aussi, qui est tout donné là, je l'ai dit, on a tout pleinement en Christ. Tout est la question, où est-ce que repose ma confiance? En moi-même, en l'homme, en ci, en ça, ou en Jésus-Christ? Pourquoi ne pas prendre ce temps, dans un instant, pour aller à ce Dieu qui peut et qui veut nous secourir dans nos besoins? Il est vivant pour intercéder en notre faveur. Et si vous êtes ici et vous avez pas, vous n'êtes pas revêtu de la justice de Christ, c'est le jugement de Dieu qui vous attend. Jugement terrible, et c'est pas ça qu'on souhaite pour personne. L'éternité séparée de Dieu, dans ce que la Bible appelle l'enfer, c'est vrai. C'est la réalité qui attend ceux qui rejettent le Fils. Ceux qui veulent se présenter avec leur justice, qui n'est qu'un vêtement souillé. Ah, mais Christ est venu. Et vous pouvez recevoir sa justice aujourd'hui même. Vous pouvez, vous coupable, être déclaré juste, sans péché, blanc comme neige, devant le Dieu vivant qui sonde les cœurs, qui connaît toutes choses. Aujourd'hui peut être le jour de votre salut. Et si c'est votre cas, c'est notre prière. On va prier. Merci Seigneur pour ce temps. Où est-ce qu'on a pu considérer une dernière fois dans cette année notre Dieu merveilleux et notre Dieu vivant? Seigneur, on te remercie de ce que tu te révèles à nous tel que tu es. Non pas comment nous on peut t'imaginer selon l'idolâtrie de nos propres cœurs, mais comment tu es réellement. Merci Seigneur pour ça. Et ce matin, on vient à toi pour se confier en toi, pour exalter ton grand nom. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Et on veut mettre notre confiance nulle part ailleurs qu'en toi seul. Et si quelqu'un ne l'a pas encore fait pour le salut de son âme, pour la transaction éternelle la plus importante dans la vie de chaque être humain, de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à celui de Dieu, on prie qu'aujourd'hui, on se réjouisse avec les anges en ta présence de voir un pécheur passer de la mort à la vie. C'est notre prière, Seigneur. Sanctifie ton nom par ta délivrance, par ta bonté, par ta grâce au milieu de ton peuple. C'est au nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen.
Amen.
Amen. Vous pouvez vous lever et prier comme